Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Alors que la défiance est grandissante envers les médias et les journalistes, il est urgent pour les acteurs du monde de l'information d'agir, de trouver des solutions pour restaurer la confiance ou en tout cas créer des conditions favorables pour qu'elles reprennent le dessus. C'est dans ce contexte que RSF a lancé il y a un an maintenant une plateforme nommée Journalism Trust Initiative qui œuvre pour la fiabilité, la transparence et la durabilité des médias. Pour en parler, je reçois Bertrand Moussia, c'est lui qui coordonne pour Reporters sans frontières, la JTI. Bonjour Bertrand.
Bonjour Steven.
Bienvenue dans l'Atelier des médias au studio 33 de RFI. Avant de présenter la plateforme, il convient d'abord d'expliquer qu'il y a eu auparavant, en 2019 précisément, la création du label international JTI. Expliquez-nous sa genèse.
Absolument, on va même remonter un petit peu plus loin dans le temps, en 2018 plus ou moins, où la JTI était au stade de l'idée, tout simplement. RSF se posait comme question, quelle solution structurelle apporter à des enjeux structurants pour les industries médiatiques, journalistiques, tout au moins. Avec ce constat que la désinformation, c'est une industrie très juteuse, le journalisme de qualité souffre d'un manque de visibilité, perd de son audience, perd des revenus, perd de la confiance, perd à beaucoup de niveaux. Et c'est comme ça que RSF est arrivé avec cette idée d'un mécanisme d'autorégulation dans un cadre officiel pour donner une nouvelle, je ne vais pas dire une arme, mais un nouvel outil aux rédactions qui font du journalisme digne de ce nom.
Ce label, donc, il s'appuie sur un constat et sur des réunions qui ont été faites entre 130 organisations. Et c'était au cours d'un moment très précis en 2019. C'était le Comité européen de normalisation, le CER.
La date à laquelle, effectivement, la norme officielle JTI, Journalism Trust Initiative, a été publiée à la suite d'un processus qui a duré environ un an et demi, pendant lequel ces experts, en fin de compte, journalistes, rédacteurs en chef, représentants du milieu de la tech, de la publicité, secteur public et privé, etc., se sont mis d'accord sur les critères qui allaient définir, en fin de compte, ce qui définit du journalisme de qualité, de confiance, et digne de ce nom, en fin de compte.
Et combien de critères y a-t-il, justement ? Est-ce que la liste est exhaustive ? Elle s'allonge d'année en année ?
Elle est exhaustive, mais surtout adaptable à toute réalité en France, en Belgique, en Afrique, en Amérique latine, partout. Il y a donc 18 clauses qui font partie de cette norme JTI. On va les diviser en deux blocs. Le premier bloc s'attarde à la transparence des organisations médiatiques. Le deuxième bloc s'attarde au professionnalisme, en fin de compte, des processus éditoriaux. Donc, au niveau des codes de déontologie, règles éthiques, mécanismes de correction, relations avec les sources, formation en interne, organes de contrôle en interne ou en externe, etc.
Peut-être qu'il serait bien, déjà, pour qu'on se donne un petit peu une idée, que vous nous disiez quels sont les médias qui ont déjà ce label. Voilà, des grands médias que nos auditeurs sont susceptibles de connaître.
Les auditeurs connaîtront forcément les médias sous la coupole du groupe France Télévisions, qui a été le premier média français à être certifié conforme à la norme JTI, en passant par un audit externe qui a été fait par un organisme accrédité, à savoir Deloitte. Et donc, Deloitte a fait cet audit pour vérifier, en fin de compte, la conformité de ce qu'a déclaré, documenté, le groupe France Télévisions dans ce qui, à la base, était un rapport de transparence et maintenant devient un certificat qui a une valeur officielle internationalement au regard de cette norme ISO.
Il y a aussi des médias américains, nord-américains qui en sont membres.
Absolument, il y a beaucoup de en cours, donc des médias qui, on y reviendra avec évidemment les trois étapes clés de la JTI, des étapes qui sont en cours d'auto-évaluation, donc l'espèce de regard dans le miroir et qui vont bientôt faire l'annonce en fin de compte suite à la publication d'un rapport de transparence ou éventuellement de leur certification en option. Dans les médias nord-américains, je vais mentionner The Winnipeg Free Press au Canada, une newsroom de plus de 100 ans, évidemment, pour qui l'éthique, la transparence étaient déjà très, très bien ancrées, vraiment fondateur de cette rédaction, mais qui, en fin de compte, dans son auto-évaluation, a buté sur une seule question, et peut-être même la plus fondamentale, en fin de compte, celle de la ligne éditoriale. Pourquoi ? Parce que The Winnipeg Free Press a une tradition de transmission orale des principes régissant la ligne éditoriale.
Pour l'instant, il n'y a qu'un seul média africain qui a ce label JTI, c'est Studio Kalangou, média de la Fondation Hirondelle au Niger, dont je recevais le rédacteur en chef Alassane Abdoumahaman tout début avril dans l'Atelier des médias. Une émission d'ailleurs à réécouter en podcast, évidemment. Y a-t-il d'autres médias africains qui sont en file d'attente ?
Absolument. La GTI a reçu depuis le premier jour, évidemment, le soutien de l'AFD, avec lesquels on organise...
L'Agence française de développement, donc.
Exactement. Avec laquelle nous organisons des ateliers de formation, de sensibilisation en RDC, en Côte d'Ivoire et dans d'autres territoires. Donc, là aussi, je reviendrai à l'encours, en fin de compte, parce qu'on est seulement à un an de la GTI. Ça met du temps à la mettre en œuvre. Une fois que c'est lancé, évidemment, ces médias-là feront des émules dans les pays en question. Je vais mentionner peut-être en RDC le studio Okapi, Radio Okapi, qui est déjà bien avancé dans sa phase d'auto-évaluation.
Alors, parlons justement des fameuses trois étapes de la JTI, de la Journalism Trust Initiative. La première, c'est l'auto-évaluation via un formulaire à remplir sur le site de la JTI.
On s'enregistre donc sur la plateforme jti-app.com. Je fais ma publicité, bien évidemment.
Donc, en fait, l'idée, c'est que tout média, tout journaliste de média peut aller sur cette plateforme et commencer la démarche de l'auto-évaluation.
Absolument. On a transformé la norme. Donc, une norme, c'est des définitions. Elle fait 60 pages. On l'a transformée en questionnaire. Avez-vous une ligne éditoriale ? Oui, non. Vous allez cocher oui. On va ouvrir un nouvel espace pour vous permettre de renseigner où se trouve la ligne éditoriale sur le site web éventuellement de votre média. Pouvez-vous nous donner plus de renseignements sur cette ligne éditoriale ? Et on y va progressivement sur les 18 clauses qui, en fin de compte, représentent environ 130 questions.
Donc, c'est très, très long, c'est un peu fastidieux. Et une fois que l'on a fait tout ça, deuxième étape, on peut faire le choix en tant que média de diffuser publiquement, de publier les résultats de cette auto-évaluation et d'établir du coup un rapport de transparence.
Le but avec une norme ISO, c'est de faire au mieux. On n'est pas obligé de cadrer à 100%, bien évidemment. On a des médias qui sont de très petite taille, on a des grands groupes comme France Télévisions, on a des médias émergents, des médias, par exemple, russes en exil, qui se relancent. Est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ou pas ? Ça dépend de tout un chacun. Mais une fois qu'on est satisfait et que ce qu'on a informé dans le rapport de transparence, enfin, suite à l'auto-évaluation, est suffisant pour le montrer au public, à toutes les parties prenantes, en fin de compte, autour de mon média, alors je passe à l'étape suivante, sur base volontaire, bien évidemment, qui est la publication de rapports de transparence. Et là, l'information renseignée devient publique à tout un chacun.
Et la dernière étape, la troisième, c'est éventuellement un audit externe. Donc là, une évaluation indépendante par un organisme certificateur agréé. Vous citiez tout à l'heure, par exemple, le cabinet américain Deloitte qui, lui, avait certifié France Télévisions.
Absolument. Qui est une étape en option. Ce n'est pas nécessaire, bien évidemment. Le but recherché de la JTI, c'est la promotion du journalisme, évidemment, de qualité. La certification sera octroyée, sera reçue par le média qui démontre, évidemment, ses mérites. Et qui démontre évidemment qu'il ouvre ses portes à cet auditeur accrédité pour qu'il vienne donc vérifier la conformité du média en regard de la norme ISO JTI.
Vous écoutez l'Atelier des médias, je suis en compagnie de Bertrand Mossia, chargé pour RSF, Reporters sans frontières, du développement de la Journalism Trust Initiative, la JTI. Bertrand, on pourrait penser que cette fameuse JTI passe pour un entre-soi entre journalistes qui veulent se remettre une médaille, mais en fait non. L'idée, c'est justement de montrer qu'il y a des bonnes pratiques et de plutôt montrer du positif plutôt que d'essayer de montrer le mal et de dénoncer les mauvaises pratiques des autres.
Il y a beaucoup de solutions sur le marché. On va dire que la majorité d'entre elles s'attardent à rétrograder les informations erronées, frauduleuses, la désinformation, bien évidemment, et qui s'attardent donc à combattre le mal, on va dire. La JTI vient en amont de tout ce qui peut être publié, en encourageant bien évidemment la production d'un journalisme de qualité, donc le bien, on va dire. Mais on ne va pas opposer non plus le bien et le mal. On ne s'attarde pas au contenu, par contre.
Mais parce qu'il faut le dire, il faut du courage pour les médias, pour jouer la transparence, pour montrer sur la place publique qui ils sont, la façon dont ils travaillent, par qui ils sont financés, etc. Ce n'est pas une évidence, en fait, pour tous les médias.
Vous aviez peut-être un pays en tête ?
Non, bah pas forcément, évidemment, on va pas s'amuser à lister, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, même dans leur façon de produire de l'information, si on regarde, on peut citer par exemple en France ce que fait Mediapart, qui en bas de certains de leurs articles vont mettre une petite boîte noire pour expliquer l'envers du décor de certaines enquêtes, mettre parfois les verbatims de certaines interviews qui ont été réalisées pour produire cette enquête-là, ce que ne font pas la plupart des médias français, par exemple.
Absolument. Donc la JTI s'adresse évidemment à ceux qui auront ce courage, en fin de compte, voudront jouer la carte de la transparence, bien évidemment. Mais pas que, je dirais, parce qu'évidemment, à terme, dans quelques années, bien évidemment, la JTI sera un réel outil économique aussi. L'énorme ISO sont là, en fin de compte, pour abattre des murs et pour créer des conditions d'un marché ouvert et accessible à tous. Et là, ici, le marché, ben, c'est l'espace informationnel, enfin, les industries médiatiques de l'information.
Alors, donc, justement, l'intérêt économique pour les médias, ce serait quoi dans la JTI ? C'est de montrer aux annonceurs qu'ils sont de qualité et que donc ils devraient recevoir plus d'argent que d'autres ?
Ça, et en retour, que toutes les autres parties prenantes, alors si on prend juste l'argent, donc les annonceurs, les abonnés payants, les donateurs, d'autres acteurs économiques dans cette catégorie-là, mais aussi les acteurs digitaux, donc les moteurs de recherche, les fils d'information, pour que tous les acteurs autour des médias reconnaissent la JTI comme une norme, comme la norme, en fin de compte, pour mieux distinguer le bon journalisme, le journalisme de qualité qui mérite d'être promu, bien évidemment, et de ressortir et d'être économiquement favorisé.
Et donc là, c'est quelque chose qui vient en plus des accords d'entreprise, des conventions collectives des journalistes, des chartes de déontologie qui peuvent déjà exister. On est sur une couche supplémentaire.
On ne vient pas réinventer ce qui existe déjà, bien évidemment. On ajoute une couche de vérification.
Bertrand Mossia, des grands médias ou des groupes médias, pourtant labellisés, on citait tout à l'heure France Télévisions, ne satisfont pas 100% des critères de la JTI, même après avoir fait tout le process. C'est pour montrer en fait que bien, c'est compliqué d'atteindre la parfaite transparence et puis d'être les meilleurs en fait.
C'est un exercice en continu, on va dire. Ça requiert de la formation en interne, ça requiert de la sensibilisation. Quand on prend un groupe comme France Télévisions, bien évidemment, c'est un groupe de plusieurs milliers d'employés, bien sûr. Mais c'est aussi l'encouragement d'une amélioration permanente, en fin de compte. Donc, quand je disais qu'on n'est pas obligé de cadrer à 100% avec la JTI, c'est pas grave. Quand on fait l'auto-évaluation sur notre plateforme, on met une espèce de jauge, en fin de compte, pour voir le pourcentage d'avancement qu'on est dans l'auto-évaluation. On est peut-être à 50% si on est un tout nouveau média, on vient de se lancer. On sera peut-être à 75% si on a un média déjà plus établi, avec quelques années d'existence. Et même si on est France Télévisions ou un autre grand groupe, même privé, on n'est pas forcément à 100%. Et c'est pas grave, parce que ça reviendra chaque année. L'auto-évaluation est un exercice qui se renouvelle sur base annuelle. La certification, par contre, est valable pour 2 ans. Donc l'audit, il faut être prêt pour l'audit, si on le veut, tous les 2 ans. Donc dans 2 ans, quand un média qui a déjà une certification avec de très très bons résultats veut faire mieux, veut s'assurer de renouveler sa certification, enfin l'octroi de la certification, il y a tout intérêt pour ce média à faire mieux que ce qu'ils avaient déclaré il y a 2 ans, bien évidemment.
Parlons maintenant du financement de la Journalism Trust Initiative, la JTI, qui a été cofinancée par la Commission européenne et Craig Newmark Philanthropies, donc la fondation du fondateur de Craigslist. Que répondre à ceux qui nous écoutent et qui nous diraient « voilà encore un label qui vient des pays du Nord, qui vient de l'Occident, qui vient de l'Europe et de l'Amérique du Nord ».
Qu'ils soient rassurés, la norme en soi a été développée par un comité d'experts, c'était plus d'une centaine d'experts évidemment, qui venaient du monde entier, issus de plusieurs types d'organisations, mais donc en fin de compte qui se sont mis d'accord sur une norme universelle d'application universelle. Et donc JTI sera à terme utilisé par bien évidemment des milliers, des dizaines de milliers d'organisations de par le monde, avec la même application, le même but au Togo, en Espagne, au Mexique, en Hongrie, éventuellement, ou dans d'autres pays où peut-être où la situation est plus problématique pour le paysage médiatique.
Et puis pour les médias qui souhaiteraient aller au bout de la démarche de la JTI, une contribution financière leur est demandée aussi.
Absolument. Pour la publication du rapport de transparence, on demande des frais d'abonnement annuels qui sont assez résiduels pour, en fin de compte, entretenir la plateforme que nous mettons à disposition, mais surtout la rendre disponible en autant de langues que possible, évidemment, dans le monde. Au niveau de l'audit, évidemment, alors là, évidemment, c'est totalement hors de notre contrôle, c'est dans les mains des auditeurs. C'est un audit, donc des frais d'audit seront demandés aux médias qui en feront la demande.
Alors c'est bien tout ça, mais l'ambition de la JTI, c'était que les plateformes de type Facebook, Twitter et d'autres encore tiennent compte de ce label dans leurs algorithmes de recommandation. Autrement dit, que les contenus des médias labellisés JTI remontent davantage dans les fils d'actualité des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il aujourd'hui ?
On a réussi à insérer les critères de la JTI dans la mise à jour du code de conduite à destination des opérateurs du digital, évidemment, qui est mis à jour. Donc, ce code de bonne conduite de la Commission européenne qui est lancé en même temps que deux packages législatifs, le DSA, le DMA. Et donc, par mécanisme de co-régulation, on va donner dans les mains de ces acteurs du numérique, évidemment, la JTI, les normes de la JTI, en fin de compte, comme la référence à suivre pour le journalisme de qualité, une fois de plus. Donc, les acteurs du numérique sont tout autant des parties prenantes que les annonceurs, les abonnés payants, les donateurs, etc., les autres acteurs économiques, parce que eux aussi jouent un rôle important dans l'espace informationnel et les médias dépendent d'eux, bien évidemment, dans leur visibilité, dans leur audience, dans la diffusion de leur contenu.
Et on le dit jamais trop non plus, les utilisateurs, les internautes, les citoyens ont un rôle dans tout ça, de regarder avec attention eh bien, les sources et la qualité des sources qu'ils consultent en ligne. Et c'est pour ça aussi que ces formulaires et ces auto-évaluations sont disponibles publiquement et que tout un chacun peut aller regarder ce qu'a répondu chaque média à chacune des questions que vous posez. Quelles sont les prochaines étapes pour la JTI là, qui fête sa première bougie ? Quelle est la suite ?
La suite, c'est de lancer la JTI dans un maximum de pays, évidemment, de par le monde, et de profiter des premiers retours d'expérience, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, ailleurs dans le monde, évidemment, pour en faire des émules, pour que la JTI vive d'elle-même, que la JTI se répande de plus en plus, que les bonnes pratiques, bien évidemment, soient la norme et que la JTI soit reconnue de tous. Donc, d'abord appropriée par les médias, comme je le disais, et ensuite reconnue par toute partie prenante qui a tout intérêt de la considérer. On aimerait arriver, évidemment, à terme, à court terme, à quelques milliers, bien évidemment, de pionniers un peu partout dans le monde qui eux-mêmes iront en faire la promotion, montrer en fin de compte les bénéfices obtenus de la JTI. Et donc, la vocation, c'est que je disparaisse dans quelques années.
C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup, Bertrand Mossia, de Reporters sans frontières, en charge de la promotion et du déploiement de la Journalism Trust Initiative, la JTI. Plus d'infos sur www.journalismtrustinitiative.org. À bientôt dans l'atelier des médias.
Merci.
RFI.
C'est bientôt la fin de cette émission, le moment de Mondoblog Audio qui nous permet d'entendre la voix des blogueuses et des blogueurs francophones de RFI.
Salut, moi c'est Afia Foya, j'habite dans le 20e arrondissement de Paris, en France, et mon blog c'est miabafrica.mondoblog.org. Dans mon billet audio, je vais vous parler de l'ouvrage de Chimamanda Ngozi Adichie.
Connaissez-vous Americana ? C'est le best-seller de l'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, publié en français aux éditions Gallimard et qui aborde avec finesse le sujet de l'expatriation. Tout d'abord, sachez qu'Americana, c'est une expression nigériane, utilisée pour chambrer les Africains exagérément occidentalisés, ceux qui ont vécu ou vivent dans des pays occidentaux et qui ont fortement intégré la culture de leur pays d'accueil, au détriment de celle de leur terre d'origine. Au fil de la lecture, certains passages ont eu en moi une forte résonance et je me suis trouvé des similitudes avec Ifemelu, alias Ifem, le pétillant personnage principal du roman. J'ai trouvé que son récit réconcilie l'exilé avec ses questionnements, ses doutes, ses craintes, parce qu'il lui permet de les nommer et donc de se décharger du poids de la culpabilité qu'il a bien trop souvent chevillé au corps. Déjà, les raisons qui ont poussé Ifemelu à quitter son Nigeria natal ressemblent beaucoup à celles qui ont conduit mes amis et moi-même à sortir de Lomé. des salles d'université en permanence bondées, des mouvements de grève récurrents, l'obstruction du marché de l'emploi qui ne laissait que peu de perspectives et d'opportunités, le tout couronné par une situation politique pour le moins instable. Ces raisons et bien d'autres jettent de jeunes Africains tout droit dans la mal-aimée catégorie des migrants économiques. Partir ou dégringoler dans la désolation du chômage, comme l'écrit Chimamanda Ngozi Adichie, tel a été le choix. Dans Americana, il est aussi question de l'éloignement culturel entre les Noirs qui arrivent dans ces pays d'accueil et ceux qui en sont natifs. Les amitiés et amours d'Ifemelu sont pour Chimamanda un prétexte pour exposer la complexité des rapports entre ces deux catégories. Par exemple, la question « d'où viens-tu » est selon moi l'une de celles qui révèle le plus clairement ce hiatus. Et les réactions qu'elle suscite parfois le montrent bien. Moi, elle ne me choque ni ne me frustre, simplement parce que je viens en effet de quelque part. J'y réponds donc sans animosité, du Togo. Mais si j'étais née en France, que j'en avais la nationalité et que sur la base de ma couleur de peau, on m'attribuait un statut d'étrangère par cette question, je serais probablement vexée. Il y a aussi les pays mûrs administratifs auxquels se heurtent les jeunes migrants et qui n'existent de facto pas pour les natifs des pays d'accueil. De ce genre de situation naissent des combats et des frustrations qui transcendent la communion que l'expérience du racisme crée entre les Noirs. Dans Americana, chaque chapitre apparaît donc comme une source lumineuse, crûment projetée sur un nouveau pan de l'expérience migratoire, y compris sur les éléments les plus banals et subtils. À quoi ressemble la vie avant, pendant et pour certains après la migration ? Comment est-ce que cette expérience impacte le corps, les goûts et la vision des personnes concernées ? Il existe autant d'histoires d'immigration que d'immigrés, et parler d'un schéma unique reviendrait à faire preuve de nombrilisme. Et pourtant, en filigrane de cette mosaïque, se dessine un parcours sensiblement commun. C'est cela même que Chimamanda a su capter et porter dans ce roman.
Des dizaines de Mondoblog audio comme celui que vous venez d'entendre sont disponibles à l'écoute sur mondoblog.org. C'est la fin de cette émission réalisée par David Brocouet. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts ou encore l'appli Radio France. Mettez-nous des étoiles sur toutes les plateformes où vous le pouvez et laissez un commentaire pour donner envie au plus grand nombre de rejoindre notre communauté d'auditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.